Donc je ne vais pas afficher les textes, hein, je vous propose aussi de les écouter un peu comme quand d'écouter, enfin je dirais de penser ce que l'on entend, les textes que je vais vous lire. Je voulais d'abord commencer, un peu en compliment de la prière de Pierre, à lire dans Hébreux chapitre 4 verset 12, un passage très connu, je prends la version du Semeur, qui dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Voilà, donc après, je vais lire maintenant 12 versets dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 12. Et après, je resterai un instant silencieux pour que vous réfléchissiez peut-être à ce qui vous a le plus marqué dans ce texte. Juste en introduction, donc Paul, après avoir évangélisé, je crois c'est Philippe, est allé à Thessalonique avec pas mal d'opposition de la part des Juifs. Et vraiment, tout le travail de Paul, ça a été de passer de l'enseignement, de l'annonce de la bonne nouvelle aux Juifs, aux populations, et je dirais principalement aux Grecs de l'époque. Enfin, frères, et il leur écrit donc après sa visite, « Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons, nous vous y invitons, à cause de votre union avec le Seigneur Jésus, faites toujours plus de progrès dans ce domaine. » Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi, personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine, en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit, et nous vous en avons averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Saint-Esprit. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites de ma part, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès, en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu et vous ne dépendrez de personne. Voilà, j'arrête là. On n'a pas l'habitude de trop lire ces passages, je crois. Bon, il y a longtemps que je ne l'avais pas lu. Et je reprends la lecture donc les versets 1 à 3, au début du verset 3. « Enfin, frères, vous avez appris de nous, enfin, vous avez reçu notre enseignement, Paul avait dû passer 6 mois à Thessalonique, comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons, nous vous conjurons, dans certaines traductions, dans le sens, nous vous supplions, avec insistance, à cause de votre union avec le Seigneur Jésus, faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Car vous connaissez les instructions, les préceptes, Paul ne va pas jusqu'à dire des ordres, que nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus, pas de sa propre personne. C'est que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est que vous meniez une vie sainte. J'arrête au milieu du verset. Alors pour ma part, c'est l'expression « la volonté de Dieu » qui a retenu mon attention au début en tout cas de ce passage. Parce que je me suis souvent posé la question, alors je pense surtout aux jeunes, quelle est la volonté de Dieu ? Notamment, bon, je dirais que j'étais attiré par le sexe opposé, je me posais beaucoup de questions. Et je me dis aussi que parfois on est prêt à se soumettre facilement aux règles de notre pays, je pense au problème du Covid en ce moment, à y obéir donc par peur de la maladie. Et est-ce que nous sommes prêts à faire de même pour Dieu ? Je me dis qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que veut Dieu dans notre situation d'aujourd'hui, dans la situation auquel on est confronté ? Je pense aussi à mon passé, à mes situations. Ou devant les choix que l'on a à faire, quelles décisions devons-nous prendre ? Est-ce que nous ne pouvons pas mieux faire confiance à Dieu, autant sinon plus que lorsqu'il s'agit de nos gouvernants, de nos magistrats, de nos enseignants, même si parfois on a quelques doutes au sujet des directives ? Alors c'est vrai qu'il nous faut vouloir la volonté de Dieu. Et c'était peut-être mon problème parfois. J'ose pas dire que j'étais peut-être pas très obéissant. Donc posons-nous la question aussi, à côté de la volonté de Dieu, cette notion de sainteté, c'est un mot absolument peu utilisé aujourd'hui. Quelle est la cible ? Alors est-ce que Dieu met la barre trop haut pour nous-mêmes ? Est-ce que nous préférons choisir des solutions de facilité ? Pourtant, Dieu veut mon bien. Et est-ce que ce n'est pas assez clair ? Est-ce que je ne l'ai pas lu, pas entendu ? Est-ce que je cherche encore ? Je ne trouve pas de réponse à mes questions. Je peux finalement me poser, et je me rappelle que c'était un peu mon problème, finalement, qu'est-ce qui n'allait pas dans mes raisonnements, dans mes choix ? Mais aussi, on peut être encouragé pour essayer de se remémorer qu'est-ce que l'on avait compris de Dieu, à quel moment c'est allé entre lui et moi. J'ai vu des réponses, j'ai écouté, j'ai compris. Et j'ai su vivre ces réponses. Alors, ça peut être aussi, et je pense qu'il faut s'encourager par cela en lisant la Bible, en priant, en rencontrant peut-être d'autres frères et sœurs, en famille, en tout cas parfois seul et parfois avec d'autres personnes. Donc c'est vrai que sur ce sujet de la volonté de Dieu, je crois que Dieu donne des directives claires et globales par ses commandements, mais aussi par notre conscience. Et pour les préceptes, pour les conseils globaux, il est déjà simple de commencer par les 10 commandements que l'on trouve enseignés dans l'Ancien Testament et qui se retrouvent à la base d'une bonne partie de nos textes juridiques. Mais il y a aussi des choix plus personnels qui nécessitent que nous écoutions Dieu, peut-être en faisant silence, en nous taisant, je suis bavard, hein, il n'y a pas qu'à de Marie, et en éteignant la télévision, parce que je pense souvent à toi quand je parle trop. Et voilà, il faut parfois savoir s'arrêter, quoi. Même si on sent pas tout de suite miraculeusement la réponse de Dieu arriver dans notre esprit. Il y a des décisions, il faut prendre le temps de réfléchir, de soumettre nos pensées, nos idées, notre volonté, nos choix à l'examen de son Saint-Esprit. Et aussi demander, bon, bien sûr, conseil à quelqu'un de confiance, ou bien savoir s'informer et lire aussi des ouvrages adaptés. Bref, il faut prendre le temps de chercher, et de chercher également, bien sûr, dans la parole de Dieu. J'ai pensé à ce verset, à ces paroles de Jésus dans Matthieu 7, verset 7. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. » Bon, ça m'a été parfois dur. « Frappez, et l'on vous ouvrira. » Rappelons-nous aussi ce texte dans Hébreux que j'ai lu au début, que la parole de Dieu est vivante et efficace. Alors voilà, lorsque nous sommes devant des choix, des sollicitations, examinons toutes choses et retenons ce qui est bon aux yeux de Dieu. Alors je poursuis la lecture, donc après le début du verset 3, ce que Dieu, la volonté de Dieu, c'est que vous meniez une vie sainte et que vous vous abstenez de toute immoralité, de toute débauche, de l'impudicité. Alors l'impudicité est un mot un peu compliqué, dur à appliquer, les commentateurs sont divisés là-dessus. Il y a le mot pudeur à l'intérieur, je pense que ça peut nous aider plus concrètement à l'appliquer. Et que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer, sans se laisser emporter par des passions déréglées, par des convoitises passionnées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et qu'ainsi personne ne cause du tort ou ne fraude finalement son frère dans ce domaine, d'autres traductions disent dans les activités, dans les affaires, en portant atteinte à ses droits. Donc il est déjà question de problèmes que devaient rencontrer les Thessaloniciens entre chrétiens. Je crois que c'est pas trop notre cas. Il est vrai que ce passage concerne Paul aborde un point délicat. Il y en a d'autres dans la vie qui sont aussi importants, mais bon, il traite de ce sujet à ce moment-là. Et il dit qu'il en a déjà parlé avec ces gens-là. Il a vécu avec eux. Il s'est rendu compte de leurs difficultés. Les nôtres peuvent être. Moi, je pense à notre civilisation qui est plus dans le domaine de la convoitise matérielle. On est tellement sollicité par la publicité, on a pris de telles habitudes, parfois de confort, qu'on croit que tout est indispensable. Parfois, il faut se rappeler qu'une coupure de courant peut même nous priver d'eau, et ça peut nous faire poser des questions. Voilà, donc c'est vrai que le monde d'aujourd'hui a des pratiques sexuelles, je dirais tout aussi déviantes de la volonté de Dieu que les Grecs de l'époque. Bon, je n'ai pas fait d'études historiques là-dessus, mais vous pouvez avoir quelques points de repère. Et les autres textes de Paul montrent aussi que son enseignement a pour but d'éclairer les non-juifs, parce que je pense que par l'enseignement biblique, je dirais les situations de débauche étaient beaucoup plus raisonnables dans le peuple juif, mais en arrivant dans la Grèce antique, il y avait quelques découvertes à faire. Et mais je crois que pour les Thessaloniciens, c'est vraiment le Saint-Esprit qui avait agi dans les chrétiens, dans ceux qui avaient donné leur vie à Dieu. Il les a vraiment libérés, transformés. Mais malgré tout, Paul avait besoin de les exhorter, et c'est ce qu'il fait. Alors je crois que la vie de Dieu sur les dérèglements sexuels n'a pas changé et ne changera pas. Mais bien sûr, la haine et la violence que ressentent certaines personnes face à des comportements qui peuvent paraître intolérables ne doit jamais prendre pied dans nos pensées et nos cœurs. Je crois que Jésus a été là pour nous montrer l'exemple. Et je crois que c'est le seul modèle que l'on peut avoir de son amour, de sa douceur, de la précision de ses paroles. Moi, j'ai toujours en tête son attitude avec la Samaritaine. Je me demande si Jésus était aujourd'hui, vers quelle personne, en guillemets, bizarre, viendrait-il parler. Et Paul continue en disant, car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Et à nouveau ce mot saint qui peut nous déranger. Celui donc qui rejette cet enseignement, rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Alors on voit que Dieu ne se contente pas de vouloir, je peux chercher la volonté de Dieu, mais que Dieu nous appelle, car Dieu ne nous a pas appelés. Donc Dieu fait quelque chose, Dieu il nous parle, donc par sa parole, par les pensées qu'il peut mettre par son esprit en nous. Alors je continue la lecture parce qu'on voit qu'après avoir abordé un sujet délicat, Paul parle de l'amour fraternel. Et c'est assez incroyable de voir qu'il leur dit, concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instruction écrite de ma part. Oh, il écrit quand même, car il dit que Dieu lui-même vous a appris à vous aimer mutuellement, à vous aimer les uns les autres. Les fameux mots qui reviennent souvent dans le Nouveau Testament. Et c'est ce que vous faites, alors pas qu'entre eux, mais envers tous les frères de la Macédoine entière. Espérons qu'un jour Dieu reconnaîtra que nous avons aussi su sortir de notre bâtiment et aider à travers différentes œuvres des frères et sœurs bien plus éloignés de nous. Mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès. Donc j'avoue que quand je regarde ma vie, je me dis que je ne progresse pas tant que ça. Et Paul est là pour nous dire non, mais continuez, persévérez. En mettant votre point d'honneur, alors c'est là où on voit qu'après avoir parlé d'amour fraternel, Paul aborde des sujets plus concrets qui peuvent retenir notre attention, en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires, et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu, et vous ne dépendrez de personne. Alors, est-ce que c'est un appel au grand individualisme ? Non, je pense que s'occuper de ses affaires, travailler de ses propres mains, c'est-à-dire soi-même, alors c'est d'abord ne pas s'attendre au secours des autres. Alors il est vrai qu'à l'époque le travail manuel était vraiment délégué aux esclaves, et dans certaines traductions on parle que de travailler de ses mains. Je crois que dans notre société, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on bricole à la maison, mais on a parfois des travaux très intellectuels. Donc je pense qu'il faut l'adapter aussi à nos situations et comprendre que Paul voulait pas l'inactivité, il voulait pas l'oisiveté. Il y a un proverbe qui dit l'oisiveté est mère de tous les maux, donc je pense qu'un peu de toutes les difficultés, hein, de tous les vices, pardon, voilà, c'est de tous les vices, je me trompe. Alors, pas les vices de mon bricolage, hein, les vices V-I-C-E-S, de toutes les déviances, je dirais. Et on peut lire justement un autre texte dans la deuxième lettre que Paul écrit aux Thessaloniciens, au chapitre 3, les versets 10 à 12. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Alors je pense que la situation était assez je dirais pas catastrophique en Thessalonique, mais il y en avait qui profitaient vraiment de la situation. Nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous vous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Et vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et on voit que, je dirais presque, Paul encapsule ses recommandations dans l'amour et dans la bonté. C'est pas des trucs qui tombent abrupts comme des contraintes, comme des choses tu dois, tu ne dois pas. Ce qu'il faut comprendre aussi, Paul a cette approche à la fois ferme dans les mots, mais entouré d'amour. Et c'est vraiment comme cela qu'il faut vivre toutes les directives qui peuvent parfois nous gêner dans la parole. Donc, faire le bien ne veut pas dire faire à la place de l'autre, ou pire, demander à l'autre de faire à ma place. Hein, sachons raisonner. Donc, je crois que Paul valorise à l'époque le travail manuel. Comme on dit parfois, il n'y a pas de sous-métier, mais plus globalement pour notre époque, subvenir à nos besoins, dans la mesure du possible, bien sûr. Nous ne pouvons pas être aveugles au jour d'aujourd'hui de voir que notre civilisation ultra-moderne, ultra-sophistiquée, qui croit répondre à tout, crée finalement des désordres, des déséquilibres qui mettent bien sûr certains dans des situations vraiment difficiles. Donc finalement, Dieu nous appelle toujours à faire notre part, à ne pas la laisser à autrui, et disons à ne pas profiter du système. Un commentateur a écrit « N'attendons pas sans cesse que quelqu'un vienne nous aider ou nous donner l'aumône. Essayons de n'avoir besoin de personne si n'est de Dieu. » Alors cela ne veut pas dire tomber dans la situation opposée et de n'apporter ou de ne demander aucun secours en cas de détresse. Je crois que tout l'enseignement biblique est toujours fait du juste équilibre. Il n'y a pas d'extrême dans les conseils et dans les encouragements. Paul a bien appelé au soutien financier, au soutien spirituel entre communautés chrétiennes, toute la Macédoine, et entre personnes quand c'est localement. Alors c'est vrai qu'en conclusion, je prends juste le temps de lire rapidement deux textes complémentaires, ou au moins de vous les citer. C'est que dans la première lettre, dans le chapitre 2 de cette lettre, Paul a aussi expliquer, on a l'impression que tout se passe bien dans la vie, mais il rappelle que quand il est arrivé de Philippe à Thessalonique, ça a été dans la difficulté. Il dit au verset 2 du chapitre 2, « Nous venions juste d'être maltraités et insultés à Philippe, comme vous le savez, mais Dieu nous a donné toute l'assurance nécessaire pour vous annoncer au milieu d'une grande opposition la bonne nouvelle qui vient de lui. » Et ça m'a fait penser à cette image, c'est que bon, quand on veut faire, pour ceux qui aiment les randonnées en montagne, on peut faire des randonnées où il y a d'abord une marge d'approche, des premiers obstacles à franchir, puis après on arrive parfois sur un plateau. Et Paul, par ce travail, par ces difficultés qu'il a eues, a permis d'installer à Thessalonique une église. Et sa lettre s'adresse à ces Thessaloniciens qui voient peut-être la vie se poursuivre, la vie d'église, mais il faut faire aller quand même de progrès en progrès. C'est un peu comme un plateau, il peut avoir le défaut de descendre ou d'être vraiment loin et de décourager avant d'arriver au sommet, à la partie la plus intéressante de la montagne. Et il peut aussi comporter des zones de marécage où on peut s'embourber ou se perdre, ça arrive en montagne. Mais Paul a rappelé ces difficultés du départ, cette persévérance qu'il faut avoir sur ce grand plateau. Et ensuite, dans la deuxième lettre, au chapitre 1, il rappelle que nous devons toujours remercier Dieu. Donc il continue de remercier Dieu pour tout ce chemin qu'ont fait les chrétiens de Thessalonique, pour l'amour qu'il y a qu'il y a entre eux, et il leur demande que cet amour ne cesse d'augmenter. Mais il rajoute au verset 4, « Aussi exprimons-nous dans les églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. » Ça veut dire que le parcours n'est pas fini. Il vivait, lorsque Paul a écrit cette deuxième lettre, encore dans les difficultés. Et c'est un peu comme la suite de la balade, ben, ça va être formidable. Il y a aussi une perspective merveilleuse qui nous est rappelée dans les chants, où un jour, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de souffrance. Mais en attendant, il y a encore des difficultés. Et Paul est encore là pour les encourager. Les difficultés sont toujours là. Donc la marche d'approche est finie. Le corps est entraîné, les reliefs plus affirmés sont à affronter et à franchir. Donc quand les difficultés, quand les oppositions arrivent, et on ne sait pas ce qu'il peut nous être réservé en église ou dans nos familles, il faut les endurer, mais pas seul, avec l'amour de Dieu et avec sa sagesse. Et c'est vraiment comme poursuivre ce chemin plus escarpé, parce qu'un jour, nous arriverons au sommet. Et l'espoir d'un paysage grandiose peut nous encourager. Ce n'est pas une utopie. Donc je conclurai juste en disant qu'il faut persévérer, garder la foi, tenir ferme, ne pas se décourager en comptant sur l'amour, la fidélité, la justice de Dieu. Et c'est vraiment en sachant que notre seule arme, quand des cas concrets sont à aborder, savoir que notre seule arme, c'est la parole de Dieu. Et je dirais juste pour conclure, dans l'épître aux Éphésiens, une autre lettre de Paul, chapitre 6, verset 13, il nous exhorte en nous disant, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. En sachant que notre seule arme, ce n'est pas un couteau, c'est la parole de Dieu. Voilà, que Dieu nous aide à comprendre sa parole, à savoir l'accepter quand elle nous concerne. On peut avoir des situations très différentes, mais Dieu a toujours quelque chose à nous dire par sa parole, et sachons l'écouter. Donc je vais juste prier. Oui, mon Dieu, tu sais combien je me suis parfois tourmenté en me demandant ce que tu voulais pour ma vie. Tu vois aussi que tu m'as guidé, tu as été fidèle, et tu veux l'être avec nous. Par ton amour, à travers ton esprit, aide-nous à ne pas hésiter à nous poser des questions, à nous remettre peut-être en question et à te faire confiance parce que toutes choses sont entre tes mains et tu veux que toutes choses soient pour notre bien. Aide-nous à le comprendre, à le vivre chaque jour, quelles que soient nos situations, parce que ton amour est là et nous pouvons compter sur toi.